Werner Remfer, Hennebard. Hennebard, le vieux sonneur de cloches, vivait seul en marge du bourg dans une cabane au pied de la forêt. Il avait fait de ses mains la cabane composée de pierres, de branchages et de planches. D'abord, elle avait eu l'air un peu nue et pauvre, avec sa toiture mal jointe et ses murs dénudés, ouverts par endroits au vent et à la pluie. Mais par la suite, au cours des ans, Hennebard l'avait consolidée et embellie. Il acheta des tuiles rouges et lui fit un beau toit neuf, puis des fenêtres à vitres qu'il pouvait ouvrir et refermer à volonté, comme les fenêtres des vraies maisons. Et la cabane de Hennebard se tenait bien debout, toute droite sous les arbres, et dominait même un peu le bourg de sa toiture rouge éclatante. Hennebard vivait seul. Jadis, il est vrai, il avait déjà pas mal de temps. Il avait été jeune, comme les autres, et s'était mêlé activement à la vie du bourg. Il avait été marié. Sa femme, qui était douce au début, ne l'aima pas longtemps, et il dut s'apercevoir bientôt qu'elle le trompait avec les beaux messieurs qui se disaient ses amis. Puis elle mourut. On raconta des choses étonnantes sur cette mort, que Hennebard n'y était pas étranger, que la morte était enceinte, que des voisins avaient recueilli ses confidences pendant son agonie. Hennebard ne savait rien, il laissa dire. Il se retira peu à peu du monde et commença de vivre sa solitude de vieux sonneur de cloches. Il vivait comme il pouvait dans une sorte d'oubli qui venait de plus en plus épais autour de lui, mais qui ne lui était pas désagréable. Les années passaient, s'ajoutaient les unes aux autres, l'éloignant un peu plus à chaque addition de sa jeunesse agitée et de son ménage perdu. On ne parlait plus guère de lui. Déjà, il apparaissait pour les nouvelles générations comme le survivant d'un autre âge. Tout ce qu'on disait encore de lui, chez les vieux, c'était qu'il connaissait bien les plantes et qu'il en tirait des tisanes utiles pour guérir les rhumatismes et les poitrines délicates. Mais au fur et à mesure que sa solitude et l'oubli devenaient plus grands, Hennebard, de son côté, devenait plus fort et plus serein. Son âge, oh, on n'aurait pas su le dire au juste. Il semblait à la fois vieux déjà et jeune encore. Il semblait une sorte d'être hors du temps, fixé une fois pour toutes dans un âge qui n'appartenait qu'à lui. Il fumait une éternelle pipe et portait un habit de gros mitaine. Il avait des yeux bleus, très vifs, dont le regard, une fois qu'il s'était posé sur vous, insistait longuement, et souvent même durement, avant de vous abandonner. Et avec ses yeux bleus, Hennebard regardait l'avenir comme une énigme à peine sensible, et les hommes sans en demander autre chose qu'un minimum de tranquillité. Il était grand, robuste. Ceux qui le voyaient pour la première fois s'étonnaient de sa stature, si au-dessus de ce qu'on connaissait le mieux en fait de stature. Il était d'une race de montagnards qui a poussé entre des rochers énormes et des sapins millénaires. Son poil était roux comme celui de ses ancêtres. Et de son poignet dur comme du caillou, il tirait de ses cloches des notes éclatantes. Il parlait peu. Il vivait surtout de silence. Il connaissait bien le maniement de ses cloches. Il en savait l'histoire, les reins doux et profonds, le rapide ou long, le timbre aigu ou grave, le poids exact, le grain serré ou lâche. Il comprenait leur sensibilité, leur réaction aux variations de la température. Il les aimait, il les soignait, les entretenait comme des instruments de musique délicats et précieux. Il ne disait rien. Il tirait sur sa corde, il tirait en silence, mesurant sa cadence, surveillant son élan. Et son dos courbé remplissait sa niche de pierre comme une voûte. Il ne disait rien. Mais depuis quelque temps, il rencontrait presque chaque jour sur son chemin quelqu'un qui lui parlait. Il rencontrait Bridie, la petite fille du fossoyeur. Elle jouait, casquée de soleil ou d'aubépine, sur le sentier de l'église. Comment que tu fais, monsieur Hallebarde, disait-elle, pour sonner le midi? Elle avait une petite voix chantante et le regardait tout droit de ses yeux vifs, pleins d'une interrogation attentive. Elle l'admirait avec des élans d'enfant. Il lui avait l'air d'être un géant, avec ses épaules qui touchaient les branches des arbres, et sa tête toujours si haute qu'elle semblait parfois se perdre dans l'azur. Mais du haut de sa stature, Hannebard entendait bien la petite voix qui montait vers lui. Il l'entendait. C'était une petite voix chantante, une voix de clochette, de ces clochettes qu'on pourrait mettre aux biches si elles en avaient besoin. Hannebard écoutait, se penchait un peu, allait à la rencontre de la voix, la reconnaissait encore et s'asseyait par terre. Alors, au même niveau qu'elle, à son tour, il regardait Bridie, il la regardait beaucoup, il la regardait intensément. Bridie s'approchait, s'éloignait, elle sautait dans ses bras, s'enfuyait. De loin, on ne savait pas s'il était un papillon, de près un oiseau. Elle jouait avec l'air, les rayons de soleil, les feuilles. Elle prenait dans sa main les cailloux blancs du sentier, les semait, courait se cacher dans les framboisiers. Hannebard avait peur pour elle qu'on la surprenne de la cure, qu'on vienne l'empêcher de jouer dans la verdure. Mais personne ne venait, la cure dormait comme d'habitude, et Bridie était bien libre de faire ce qu'elle voulait. Hannebard était content, il souriait, son sourire illuminait sa barbe. Il regardait encore. Bridie se laissait prendre, bougeait comme une flamme entre ses bras. Il regardait. Elle avait des yeux étonnants, des yeux gris, gris-bleu, bleu-gris, et on ne savait pas à quelle couleur il fallait donner la préférence. Mais quand on regardait bien, au fond, il y avait du ciel, d'un sol azur vibrant, et de la gaieté qui pétillait franchement, comme la gaieté du vin du lac quand il est bon. Elle avait aussi des tresses blondes, le plus souvent dénouées, qui volaient autour de ses épaules comme un trésor plus doré que les blés. Hannebard ne savait pas si c'était de l'or, du blé ou du miel. Il regardait et, soudain, touché par cette blondeur inconnue, se mettait à parler. Oh, comment je fais, disait-il, comment, oh, et toi, Brady, comment que tu fais, toi, pour avoir des yeux tellement bleus? On ne sait plus si c'est bleu ou gris qu'ils sont. Et des tresses pareilles, comment que tu fais pour les avoir? Mais je ne sais pas, monsieur Hannebard, je ne sais pas. Ah, Hannebard avait bien de la peine à exprimer ce qu'il pensait. Il se contentait de pousser un soupir, puis il remontait le sentier. Il remontait vite de ses longues jambes qui prenaient de la distance, de ses épaules qui prenaient de la hauteur. Et tout autour de lui, les vieux pommiers refleurissaient. Ils refleurissaient dans un nuage rose et blanc trempé de bleu. Eux aussi avaient leur mystère. Et Hannebard se demandait depuis quand ils refleurissaient ainsi. Ils semblaient figés par l'âge dans de gros troncs couverts de mousse. Mais chaque année, par le haut, ils s'épanouissaient dans une parure nouvelle. En été, il s'arrondissait doucement, se chargeait de fruits, s'alanguissait. Mais dans leur floraison printanière, comme dans leurs fruits dorés, une ivresse circulait que Hannebard comprenait. Une sève généreuse alimentait leur vigueur et renouvelait leur jeunesse d'année en année. Hannebard touchait leurs branches, se rendait compte que sous l'écorce des sucs circulait, respirant l'arôme des floraisons. Il montait. Sa tête commençait à émerger des feuillages, les dépassait et s'enfonçait dans du bleu qui venait de partout. Il se sentait heureux et fort dans son corps robuste, planté au milieu du jour, avec toute cette lumière du monde qui venait à lui, le baignait, le soutenait. Lui aussi était comme les pommiers, épanoui et sage, et jeune, avec cette floraison du sang dans ses veines à chaque beau jour. Sa poitrine se gonflait, aspirant l'air à plein poumon, et sûr d'appartenir, comme les arbres, au beau mystère de la sève généreuse et chaude, il gagnait son église. Il pénétrait dans une niche froide et sombre au bas du clocher, et se mettait à sonner le midi. Bridie, sur le sentier, restait prise dans l'attente du premier coup de cloche, et quand il venait, soudain délivrée par Anne Barde, elle l'accueillait par un cri de joie. Et pendant que le vieux sonneur, courbé dans sa niche, sonnait au cœur du bourg, la petite Bridie battait la cadence en mesure, les mains tendues. Le soir, Anne Barde se tenait assis devant sa cabane. Il fumait sa pipe en méditant. Souvent, il revoyait dans la mémoire la scène du sentier, et il pensait à des choses auxquelles il n'avait jamais pensé, et qu'il n'avait jamais su regarder un enfant. Il n'avait jamais compris ce que pouvait être un pommier épanoui sur sa tête, que la lumière du jour était belle. Il se disait que vraiment, avec un peu d'attention, tout pouvait lui sembler nouveau, tout. Il n'y avait qu'à regarder la petite chose rouge et blanche et bleue qui tournoyait sur le sentier. Oh, c'était peut-être le recommencement de tout. Que pouvait-on savoir? Toute cette sagesse et cette sérénité qu'il avait accumulée au cours des ans, comme la moisson épars de sa solitude, n'était peut-être qu'une lente préparation à des enthousiasmes inconnus, qu'un moyen seulement un peu perfectionné de pénétrer le mystère, d'ouvrir la porte à une autre joie. Quelque chose de frais remuait en lui. Il s'attardait longuement dans la nuit, puis il allait se coucher et dormait d'une traite jusqu'à l'heure de reprendre son travail. Le sommeil ne faisait que lui rendre plus fraîche et plus vivante les images de la veille. Parfois, il descendait vers le bourg et faisait un bout de promenade en compagnie de Cherbet, son ami, le cordonnier. Cherbet était un petit homme, trapu et remuant, et toute sa personne respirait la jovialité. Il restait attaché à Anne Barde par l'habitude et peut-être aussi par une sympathie naturelle qui avait fait que, voici bien des années, il s'était lié tout de suite. Mais Cherbet était une nature expansive et légère. Il aimait les plaisirs et la société. Et il avait de la peine à admettre la solitude de Anne Barde. « Mais des hommes comme toi ne sont bons que pour le mariage, » disait-il. « Seuls, ils ne savent pas s'en tirer, ils deviennent des ours. »« Moi, c'est différent, je puis rester célibataire, j'ai de la voilure. » Il appelait « voilure » son entre-gens et son aplomb dans les affaires sentimentales. C'était un mot de sédentaire qui traduisait à sa manière la nostalgie que Cherbet gardait secrètement pour la mer qu'il n'avait jamais vue, et les voyages lointains qu'il n'avait jamais faits. Anne Barde réagissait mollement, mais Cherbet insistait. Il lui avait découvert la femme qu'il lui fallait, une épicière dans la trentaine, encore fraîche et rudement bien située, du point de vue financier. Mais t'es là qu'à dire un mot, elle est à toi, et le plus beau secteur est l'épicerie par-dessus le marché. Non, j'aime mieux rester sonneur, disait Anne Barde, amusée. Sonneur, mais c'est pas un métier, au fond. Et tu pourrais refaire ta vie. Cherbet n'aimait pas que Anne Barde lui parlât de ses cloches. Il savait que par le bourg, on disait de ci, de là, qu'Anne Barde n'était plus bon qu'à sonner les cloches, et qu'à force de les avoir sonnés, il pourrait bien avoir reçu un choc en retour sur l'entendement. « Et tu penses toujours à tes cloches quand c'est une femme qu'il te faudrait ?» concluait Cherbet, dépité. La querelle restait là. Elle reprenait aussi souvent que possible, sans altérer d'ailleurs leur amitié. Rentré chez lui, Hannebard s'endormait, et cette fois, en pensant à ses cloches dédaignées. Il les aimait, et son métier était bel et bien un vrai métier, et il s'y sentait à l'aise. Mais Cherbet ne pouvait pas tout comprendre. Comment lui expliquer qu'il ne s'en est pas seulement pour les autres, ou par obligation, mais aussi pour lui? Seul dans sa niche, il délivrait les sons, mais il les entendait lui revenir tout chargé des échos du monde. Il se sentait au centre de bien des tragédies, et de bien des fêtes, de bien des tristesses, et de bien des espoirs. Il valait mieux ne rien dire et rester fidèle à ce vieux rêve qu'on porte toujours en soi quand on est sonneur, ce vieux rêve de musicien. Chapitre 2. Hannebard tirait sur sa corde, la chemise ouverte sur la poitrine, le front incliné et les muscles bandés comme dans une lutte. C'était bien une sorte de lutte, surtout quand il s'agissait de mettre en branle le jeu complet de ses cloches. Souvent, la corde se raidissait, lui échappait et allait se balader dans les poutres. « Oh, c'est pas en main, » se disait Hannebard, « faut y mettre un peu plus. » Et il sautait, faisait un bond pour attraper la corde, la rattrapait et recommençait. Cette fois, il la tenait bien, il gagnait la lutte, et la grosse bourdonneuse, car c'était elle qui la plupart du temps lui faisait recommencer la manœuvre, partait domptée. La grosse bourdonneuse était la cloche la plus lourde du jeu. C'est elle qui donnait l'accompagnement de basse. Elle pesait près de 2 tonnes et se montrait d'un caractère assez irascible. Hannebard avait quelquefois sauté à 2 ou 3 reprises pour rattraper la corde et la mettre en train. Mais une fois en train, il la tenait bien et l'allait d'un pas égal comme un animal tenu en laisse. Hannebard avait le visage en sueur. Le carillon d'avril lui donnait moins de peine. C'était une petite cloche légère et docile. Elle rendait un son pur et cristallin. Une simple pression de la main sur la corde suffisait pour lui faire prendre sa place, d'un seul élan au sommet de la gamme. Elle ne défaillait pas. Elle avait une sorte d'allégresse dans son rythme. Il l'avait tout de suite baptisée « Carillon d'avril » à cause du grand plaisir qu'il éprouvait à écouter son timbre et à la manier. Quand il sonnait ainsi dans sa niche, les bras encordés, les muscles tendus, Hannebard se sentait comme un dieu au centre de son œuvre, en marche. Une symphonie montait en lui, le déridait, le comblait. Il sonnait de toutes ses forces. Son vieux corps s'épanouissait de nouveau comme les pommiers en fleurs. Pour le bourg, sa sonnerie ne pouvait être qu'une habitude, qu'une routine. Mais pour lui, c'était chaque fois un beau moment de plénitude et de joie. Il sonnait pour le midi, comme disait Bridille, pour les mariages, pour les baptêmes, pour les enterrements. Pour les mariages, où il savait ce que c'était. C'était une affaire où il fallait tenir en réserve un bon coup de rein, de temps en temps, pour maintenir la grosse bourdonneuse dans la bonne cadence. C'est une simple pression de la main pour dégager l'élan allègre d'un carillon d'avril. Et les 2 timbres du premier coup se mariaient pour exprimer sans hésitation le bonheur sans mélange livré à la curiosité publique. C'était aussi, pour Hannebard, c'était beaucoup, une affaire où il fallait savoir être discret, ne pas lever la langue sans raison, garder un silence approbateur et surtout avoir de la patience, toujours de la patience. C'est que malgré leurs airs dédaigneux, leurs plaisanteries ou leur indifférence, les gens venaient le voir à la veille du grand jour. Ils venaient avec des tapes amicales sur l'épaule et des petits airs entendus qui les rendaient plus familiers. lui demandait de sonner bien, de sonner mieux que d'habitude, de sonner comme pour une apothéose. Il y en avait qui gardaient, tout en jubilant intérieurement, une mine de supériorité malicieuse, comme pour laisser entendre que, malgré leurs yeux qui luisaient d'espérance, ils se rendaient parfaitement compte de ce qu'ils faisaient et qu'ils n'étaient pas dupes. Au fond, Hanbard voyait qu'ils appréhendaient le moment où ils feraient retentir le premier coup de cloche, saluant leur bel avenir. Un pli presque imperceptible se creusait sur leur front, et cette petite ride tenace entre les deux yeux dévoilait l'ombre, le souci de la future famille qui s'agitait en eux. D'autres se livraient avec moins de précaution. Ils sentaient le vin et l'oignon, car ils venaient d'enterrer, comme ils disaient, leur vie de garçon, et les bouteilles bues leur restaient sur l'estomac. Ils étaient brefs et chancelants, comme des fantômes à peine entrevus. Il y en avait qui étaient maigres et défaits comme s'ils sortaient de pénitence, et ils parlaient avec des bouches fendues jusqu'aux oreilles. Il y en avait qui étaient lourds et gras, déjà blasés, et on sentait bien que la vie conjugale dans laquelle ils allaient entrer ne leur réservait aucune surprise. Il y en avait qui baissaient les yeux et lâchaient des mots qui voulaient dire crûment que leur nuit de noces ne leur ferait pas plus d'effet que s'ils avaient couché avec leur femme depuis l'éternité. Les uns laissaient entrevoir un avenir mal assuré, les autres pleuraient un passé mal éteint. Tous lui livraient la double image de ce qu'ils auraient voulu être et de ce qu'ils étaient réellement. Hanbard les écoutait, se taisait. Il leur donnait l'assurance qu'il ferait de son mieux et leur souhaitait d'être heureux. Il s'enrichissait d'une expérience qui se prolongeait au-delà de son propre passé. Plusieurs de ceux qui étaient venus le voir la veille de la noce disparaissaient ensuite comme des feuilles dans le vent. Il n'entendait plus parler. Mais d'autres revenaient. Ils avaient des mines délabrées et des yeux féroces. « Tu sais, le jour où t'as si bien sonné, hein? Tu te rappelles, c'était un jeudi. Ben, ce jour-là, t'aurais bien mieux fait de sonner le tocsin. » Il pleurait un bonheur qui avait été bref. Il jurait, il menaçait. Puis il se reprenait à espérer. Des tout vieux, aux moustaches blanchies, aux genoux cagneux, voulaient absolument recommencer. Et des tout jeunes, la casquette sur les yeux, se moquaient d'eux-mêmes et de tout. Ils rigolaient et crachaient par terre avec des mines dégoûtées. Hanbard aurait pu dire bien des choses, donner des conseils, faire le confident. Mais il s'abstenait. Sa sagesse lui disait que tout commentaire serait superflu. Il se taisait et se contentait de faire son métier. Mais pendant qu'il sonnait, un film se déroulait devant ses yeux. Il y voyait la cérémonie qui se déroulait dans les rues du village et à l'église. Il voyait ces ombres combinées du beau-père orgueilleux et du gendre modeste. Et en les regardant, on ne pouvait jamais dire lequel des deux se mariait réellement. Il voyait ses amis du marié qui vont toujours comme s'ils n'avaient pas eu le temps de s'habiller correctement. L'un cherchant le gant qu'il tient dans la main, l'autre fixant ses chaussures qu'il n'a pas réussi à accorder avec son chapeau. Il voyait ces couples mal assortis qui surgissent d'une vague parenté en province, pour apporter dans le cortège des images dont on ne voudrait plus se souvenir. Ces avares qui ont longtemps supputé la vertu de leur fille et qui, à peine délivrés de ce souci, pensent déjà aux intérêts composés que pourra leur apporter chaque bébé à venir. Ils les voyaient. Ces gendres qui épousent non pas la jeune fille qu'ils ont au bras, mais un poste avantageux dans l'administration, ou une sinécure dans une société par action, ces fiancés déjà fripés, ou ces tendres agnelles qui se sont trompés, ces beaux jeunes gens qui divorceront dans une année ou qui s'intéresseront plus à leur auto qu'à leur femme. Et ces pauvres diables qui se marient tout simplement parce qu'ils aiment. Et tous les autres encore, tous ceux et celles qu'on voit dans une noce, ils les voyaient. Ils voyaient même parfois, dans ce film vieux comme sa barbe, une image secrète qui ne ressemblait à aucune autre. Ils la regardaient pas longtemps. C'était l'histoire, l'image de sa propre histoire. Oh, elle remontait d'un lointain passé et flottait un moment sur la pellicule imaginaire comme un poisson mort. Hannebard la chassait vite, détournait son regard. Il n'avait plus aucune envie de la repêcher. Pour le midi, Hannebard sonnait ferme et clair. Il savait quel beau moment c'était pour le bourg. C'était le moment de répit au milieu du jour, l'heureux instant où l'on avait fait la merveilleuse partie du travail de la journée et où l'on avait faim. Hannebard comprenait ce bonheur et même il était fier d'en donner comme le signal. Il tirait ferme et clair sur sa corde et les cloches partaient avec facilité. Il les sentait bien au point. Leur voix se répandait sur le bourg, plus vibrante encore que de coutume à cette heure tiède de la journée. Elle vibrait si bien qu'elle tirait les gens des ateliers, des usines, des bureaux. Même ceux qui étaient occupés au loin sur la colline, dans leurs champs, accouraient à son appel. On les voyait gagner la rue, envahir les places. Ils parlaient, souriaient, se saluaient. Jamais on n'aurait dit qu'ils avaient été malheureux le matin d'avoir eu à se lever tôt, ou qu'ils cachaient de ces petites et grandes rancunes sournoises qu'ils réservaient d'habitude à leurs voisins ou à leurs concurrents. Ils marchaient bien, humaient l'air avec délice, se faisaient des grâces. La faim de midi les rendait souples et vifs et embellissait. Ils avaient des démarches aisées. Ils se serraient la main avec cordialité. Ces angles du caractère, ces pointes d'humeur, qui, le matin ou le soir, leur tiraient les traits, les courbaient, les guindaient, disparaissaient comme par enchantement. On ne voyait plus des blonds que leurs yeux parfaitement bleus, des bruns que leurs joues propres et rasées. Ils rajeunissaient pour un instant. Même leurs vieilles histoires de ménage ne les intéressaient plus. Ils se sentaient à l'aise, se coudoyaient, les notaires avec les professeurs, les gratte-papiers avec les ferblantiers, les commis avec leurs patrons, les usiniers avec les cantonniers. « C'est ma cloche qui leur donne du bonheur », pensait Hannebard. Ils ont beau dire, à présent, ils dansent tous au bout de ma corde, la jolie danse de midi. Ils avaient beau dire, en effet, l'appel de midi les changeait, les transfigurait, et ils allaient par le bourg à pas sonores comme des héros, redressés par la musique. Ils allaient, et pour Hannebard, c'était un chant toujours neuf que celui qu'il lançait de son poing solide à la recherche de tous les cœurs triomphants qui palpitaient à leur tiède de midi. Pour les baptêmes, il avait de l'indulgence et de la bonté. Il revêtait en présence, sans penser, ses cloches de bleu et de rose. Le carillon d'avril vibrait comme une couleur, et elle avait la douceur et la pureté d'un ciel sans nuages. Pour les enterrements, il ne pleurait pas. Il avait même pris l'habitude de siffloter tout en sonnant, surtout en hiver, quand la corde était souvent gelée et lui râpait les mains. Sa simplicité d'âme ne se démentait pas quand c'était un riche ou un puissant qu'on enterrait. Il ne tirait pas moins fort sur sa corde quand c'était un pauvre. La mort le faisait penser à la vie. Il se disait que la vie était assez pleine de mystères et de gravité sans qu'on aille encore en chercher dans la mort. Ses cloches chantaient d'ailleurs comme pour la vie, même quand elles étaient tristes ou voilées. Elle chantait, c'était l'essentiel. Elles lui communiquaient leur rythme secret, et les morts s'en allaient, doublement bercés dans son clocher et dans sa tête. Chapitre 3. Maintenant, Hanebard pensait beaucoup au printemps. Il y pensait le jour et la nuit, et chaque fois qu'il y pensait, il pensait à Bridie. Bridie grandissait. Longtemps, elle n'avait été pour Hanebard qu'une petite tache rouge et blanche et bleue au soleil sur le sentier de l'église. Elle glissait sur les cailloux blancs, elle disparaissait dans les framboisiers jaunes. Elle n'était qu'une petite chose colorée qui vibrait au soleil comme une cloche. Mais elle prenait beaucoup de place déjà, accaparait l'espace, le temps, absorbait jusqu'à l'image des vieux pommiers. Elle apportait une fraîcheur inconnue dans le jour. Les insectes, croyant butiner une fleur, la butinaient. Les merles, à ses gestes, s'apprivoisaient, acceptaient les mies de pain qu'elle leur jetait. Hanebard réfléchissait. C'était une petite chose, si neuve, si simple, si claire. Il en était surpris, étonné dans sa sagesse. Il ne se révoltait pas, il subissait un charme. Et Bridie grandissait, grandissait toujours. « Et comment que tu fais, monsieur Hanebard, pour sonner le midi ?» Elle répétait cette phrase enfantine, familièrement, comme pour renouer chaque matin le dialogue abandonné la veille. Ce n'était rien, c'était tout. Une petite voix qui jaillit, qui vous prend, qui vous émeut, jusque dans votre expérience la plus racise. Et derrière la voix, derrière la tache de couleur qui vibrait, il y avait le visage de l'enfant qui se dessinait de plus en plus nettement, qui s'érigeait, se gravait sur l'écran étincelant du jour. Des cheveux blonds se détachaient d'un coup blanc, pur, et voletaient autour de la tête comme une flamme. Des yeux bleu-gris, gris-bleus, s'ouvraient, riaient, indéfinissables dans cette clarté du cœur qui rayonne d'un enfant. Un visage frais, un monde tout neuf, se détachait des choses, naissait d'un océan de rayons et abordait au rivage de l'après-midi pour enchanter le vieux sonneur. Hanebard était dérouté, étreint. Il pouvait toucher Bridie, la respirer. Oh, il ne disait rien, il ne parvenait plus à parler. Il inspirait l'air profondément, souriait. Et avec le sourire, il recouvrait l'usage de la parole. Il parlait. « Tiens, Bridie, regarde comment je fais pour sonner le midi. Je fais comme ça, et puis comme ça, bim, bang, bang. T'as vu, t'as compris ?» Elle avait vu, elle comprenait. Elle soulevait les bras, les abaissait en cadence, répétait à son tour de sa voix haute, claire, « Bim, bam, bam !» Ce n'était rien, mais c'était tout. Un sentiment très doux, une reconnaissance pour des mots à peine compréhensibles, un élan pour tout ce qu'il ne connaissait pas encore, la certitude que quelque chose d'absolument nouveau l'étreignait. Une béatitude mystérieuse, brûlante et sereine à la fois, envahissait Hanebard. Il pensait aux années écoulées, au passé, au temps perdu. Mais que pouvaient les années, le passé, maintenant que la petite chose vivante était sur le sentier de l'église, qu'elle était là tout le jour durant, qu'elle illuminait tout. Et le temps perdu. Le temps perdu à ne rien comprendre, à ne rien savoir de cette flamme blonde sur le cou d'une gamine, de ce flot rouge et bleu et blanc qu'elle apportait, qu'elle suscitait dans les feuillages immobiles. Que pouvait-il, le temps perdu? Hanebard sentait une ivresse monter en lui, marchait avec Bridie, courait avec elle, ne raisonnait plus, chantait. Il avait confiance dans l'air qu'il respirait, dans la main qu'il tendait à Bridie. Il avait confiance. Il ne marchait plus, ne travaillait plus, ne respirait plus que dans ce sentiment qui le pavoisait comme une ville en fête. Et Bridy grandissait. Les cailloux du sentier, les framboisiers de la cure ne lui suffisaient plus pour occuper ses journées. Elle voulait voir le large, les champs. Elle s'intéressa aux herbes, aux bêtes. Les herbes, elle les voyait pleines de coccinelles, de caresses vives, de souffles chauds, de rosées. Elle voulait devenir abeille, papillon, abeille pour boire le suc des fleurs, papillon pour étinceler dans le soleil. Hannebarde avait beau lui dire qu'elle l'était déjà, elle n'en croyait rien. Elle s'épanouissait. Elle regarda le ciel. Elle y découvrait des nuages blancs, des roses, des rouges, qui s'en allaient, qui couraient, comme elle, qui fondaient. Elle demandait à les connaître de plus près, leur parlait, posait des questions qui s'égrenaient le long des routes. Elle grandissait. Elle découvrit les arbres de la forêt, les vieux sapins toujours verts, la feuille de hêtre qui jette de la splendeur au fond des sentiers. Les arbres sentaient la résine, la menthe, la balsamine. Elle les enlaçait de ses bras, les aimait. Puis elle regarda l'eau qui était bleue, verte, transparente, dans la source qui était fraîche et rapide, dans le ruisseau qui devenait lente et belle dans la rivière. Elle y trempait les mains, s'y baignait le visage, la goûtait. Elle apprenait, elle grandissait. Mais pendant qu'elle grandissait, Hannebarde voyait toujours mieux son visage. Son visage se couvrait de lait, de feu, de neige. Il brûlait, se formait, s'arrondissait. C'était lui à présent qui prenait toute la place et toute l'attention. C'était lui qui vous remuait jusqu'au plus profond de vous-même. Et soudain il rosissait, devenait lisse comme un pétale, et on ne savait pas quelle aurore le baignait. Soudain, il pâlissait, une nacre, une blancheur inconnue vivait dans ses traits. Il devenait lumineux, il frémissait au moindre souffle. Il devenait beau, avec des ombres tièdes sous les yeux, des clartés dorées dans le sourire, des blondeurs plus lourdes dans les cheveux. Il se précisait toujours davantage dans sa réalité exigeante. Il jaillissait des feuilles, des pierres, des herbes, comme une source. Et Hannebarde tremblait de bonheur par moments devant son apparition. Hannebarde se sentait désarmé, dépouillé devant cette source qui se jetait dans la vie. Il n'arrivait plus à penser, balbutiait. Ah! Cela lui servait à grand-chose d'être vieux, d'être sage. La vieille enveloppe tombait de lui, allait rejoindre dans le passé les tragédies mesquines de sa vie, les heures perdues à crier, à manger pour rien, pour une dispute de café, pour une combinaison politique. Des trésors inconnus le frôlaient. Il rougissait comme un adolescent devant les premières révélations de la beauté féminine. Il se croisait les bras, frissonnait. Il regardait intensément, fermait les yeux, les rouvrait, les essuyait, ébloui. Il tâtait l'air, l'eau, le jour, comme Bridie. L'air ne lui donnait plus, comme autrefois, cette impression de vide, d'inutilité. Il était plein de choses denses, de baisers, de caresses, et chaque souffle, chaque rayon, il aurait pu le prendre, le tenir dans sa main. L'eau ne coulait pas pour rien dans les champs, elle abreuvait les gazons, cascadait sur les cailloux, répondait aux oiseaux. Tout dans la nature se chargeait d'un sens nouveau, et quand le jour venait, il savait qui serait rempli d'oiseaux migrateurs qu'il n'avait jamais vus et de sonneries retentissantes qui ne venaient pas du clocher. Il sentait qu'il changeait. ses facultés s'aiguisaient, sa vue devenait plus perçante, son ouïe plus fine, et le moindre changement de température, il aurait pu le prévenir, le déceler à l'avance, de son seul doigt levé, sensible comme un baromètre. Sa force augmentait. C'est à peine s'il sentait encore la résistance de sa corde quand il sonnait. Il gagnait en souplesse, en agilité. Il se roulait dans l'herbe comme un écolier, sautait les ruisseaux, les haies. Sa cabane rajeunissait d'un vue d'œil, comme lui. Les vieux objets qu'il maniait depuis des années, ils lui semblaient neufs, il croyait les employer pour la première fois. Ses fatigues qui le prenaient au changement de saison chaviraient. Même quand il ne dormait pas, attardé dans sa joie, il se sentait dispos. Il n'avait qu'à se laisser aller, suivre l'impulsion de son corps. Il était tout de suite et tout droit sur la route, sur le sentier, dans sa niche. C'était comme une chanson qu'il vivait tout le long des heures. C'était une chanson, c'était le printemps. Et dans le printemps, bridille, et dans bridille, son visage plus grave, plus murmurant, plus limpide qu'une source. Et Hannebarde allait, allait, avec au cœur ce délire et ce printemps, tout cela qui était plus beau que tout ce qu'il avait senti de beau jusqu'à présent. Bridie grandissait, elle n'avait plus de maman. Une tante un peu myope la soignait. Elle s'intéressait davantage à ses voisines qu'à elle. La plupart du temps, elle n'avait pas l'air de savoir que Bridie existait. Peut-être détestait-elle l'enfant qui ressemblait à sa mère, dont on avait vanté la beauté, et qui était morte jeune, tandis qu'elle, elle était laide et vieille. Elle avait envié le bonheur de sa sœur avant de haïr sa mémoire. Elle avait souhaité se faire épouser par le veuf, mais lui n'oubliait pas la morte et semblait ne pas comprendre les avances de la tante. Il restait bien veuf. Il creusait les fosses, entretenait l'ordre dans le cimetière et passait le reste de son temps au café. De sorte que Bridie était seule, abandonnée de sa famille. C'est Hannebarde qui la remplaçait. Tout de suite, un pacte tacite, secret, s'était établi entre eux, basé sur une confiance totale. Pour Bridie, Hannebarde était tout. Le père, la mère, le sonneur, l'inconnu. Elle fréquentait l'école, mais n'y apprenait rien. Elle n'apprenait qu'avec Hannebarde. C'était lui qui lui apprenait à épeler les choses, les êtres. C'était lui qui lui montrait comment il fallait faire pour distinguer les couleurs, le vert des prairies, du vert des hêtres, le rose du soleil couchant, du rose de l'aurore. Le bleu du ciel, du bleu de ses yeux. Il lui apprenait la géographie, la géologie et mille petites sciences secondaires en l'emmenant sur les collines, en la faisant contourner les forêts, la rivière, en lui expliquant ce qu'était une pierre, un rocher, une combe, une vallée. Il cherchait à apprivoiser les orages en les niant, en s'exposant à la foudre pour les lui faire comprendre. Il grattait le sol, plantait de la rhubarbe, des tulipes, de la salade, pour lui faire sentir ce qu'était la terre, ce qu'elle pouvait sur de frêles graines, ce qu'était la germination, et comment les feuilles montaient vers la lumière du jour, dès leurs plus tendres pousses. Il escaladait les arbres, ramenait des nids, des fruits, pour lui montrer comment l'été travaillait ses trésors. Il imitait la voix des animaux pour la convaincre que toutes les bêtes ont un langage. Poussait un petit cri d'hirondelle s'il le voulait. Rugissait comme un lion s'il le fallait, au nom de la vérité. Il prenait ses cloches à témoin pour qu'il avait la voix juste et lui prouvait par comparaison que tous les hommes ne l'ont pas. De son regard insistant, il explorait le ciel la nuit, pour lui ramener au matin 4 ou 5 étoiles minutieusement dépeintes qu'elle pouvait retrouver le soir venu en regardant par la fenêtre avant de s'endormir. Hanebard était tout, la belette, le léopard, la jardinière, le pinson, l'astronome. Il enseignait le rêve, le savoir, la patience, l'enthousiasme, la vérité. Il donnait tout. Sa barbe pour expliquer la toison des animaux frileux, sa main rude pour escalader les murs, son cœur pour être au monde comme dans un paradis. Et Bridy entendait, comprenait, prenait tout. Jamais confiance réciproque n'avait jailli aussi spontanément, aussi librement, de deux âmes aussi distantes l'une de l'autre par l'âge, mais aussi, près, par la sincérité et la candeur. Leur pacte était scellé d'azur, de vent frais, de rosée bleue et de simplicité. Mais un jour, Brindy eut 15 ans. 15 ans, ce n'est rien encore pour certaines jeunes filles qui se développent tard. Mais pour Brindy, c'était beaucoup. Elle était précoce. Elle avait poussé rapidement, son corps s'était formé vite. Son âme était d'une enfant, son corps était devenu féminin. Elle ne s'en inquiétait pas, elle s'en doutait à peine. Elle restait naïve et fraîche, comme au plus beau jour de ses premiers pas sur le sentier. Ce jour-là, elle alla ramasser des jonquilles dans les champs. Elle apporta son bouquet à Hanebard, prit ses fleurs et l'en couronna. Elle riait. Hanebard riait avec elle, la prenant dans ses bras, admirant les jonquilles. Et tout à coup, il pâlit, il frissonna. Bridy était tout contre lui, blotti dans ses bras. Et pour la première fois, il sentait sur ses genoux, contre sa poitrine, le petit corps chaud de 15 ans de Bridy. Alors la flamme, la vieille flamme avec laquelle il croyait en avoir fini, la flamme aiguë et rampante du désir, lui mordit les reins. Il ne bougea pas, attendit. Elle mordait bien, elle le tenait encore une fois. Il la reconnaissait, et pourtant elle aussi semblait changer. Elle semblait venir du fond des âges, à travers des milliers d'années de chutes, d'étreintes, de renaissances, pour le prendre, se glisser dans ses veines avec un feu nouveau. Autrefois, à ces moments d'amour, elle lui inspirait une hâte brutale, élémentaire. Maintenant, sans rien perdre de sa force, elle le remplissait d'un feu doux, profond et large, beaucoup plus tranquille, mais si vaste. Il se contint, il se retrouva, il comprenait. Ce printemps inconnu, impérieux, qui se préparait depuis des jours, venait d'éclore soudain. Cette renaissance qui s'insinuait dans sa vie, qui transfigurait sa sagesse, qui le plongeait au centre des eaux, comme s'il avait à réinventer le langage des hommes lui-même, elle se faisait. C'est une féerie étonnante qu'il vivait. Elle le pénétrait, le secouait jusque dans sa fibre la plus intime. Il ne lui résista pas. Il ne le pouvait pas. Il était incapable de faire un geste pour s'y soustraire. Et il resta là, pressant, sans mot dire, le petit corps de 15 ans se révélant à lui brusquement. Bridy ne se doutait de rien. Elle continuait à se blottir dans ses bras, rieuse, abandonnée. Elle lui offrit sans défense ses deux petits seins denses, déjà très fermes et très durs, qui tendaient l'étoffe de sa blouse, s'arrondissaient doucement. Elle appuyait contre lui sa taille mince, flexible, et déjà lourde de langueur promise. Elle lui livrait ses hanches menues, dont le mouvement précis retentissait jusqu'au fond de son être. Il ne bougeait pas. Il subissait son enchantement. Il avait le sentiment que le corps de brindille était une chose miraculeuse, une chose fermée, sans rature, une chose nette et lisse, sans aucune place pour un hiatus, mais si vivante et si sensible. Il en était bousculé et ravi. La vieille flamme se changeait en cantique. Il sourit, mais ses tempes bourdonnaient. C'était comme si toutes les cloches de l'église lui étaient tombées dans la poitrine, les plus lourdes, les plus frêles, les plus éclatantes et les plus suaves, pour se mettre à sonner toutes ensemble le plus merveilleux carillon qu'on ait jamais entendu. Longtemps il resta sous le charme de cette sonnerie imprévue. Puis il se calma, puis il regarda de nouveau le visage de Bridille. Oh, il le reconnaissait bien. Dans ses yeux, l'image en était fixée. Mais jamais, comme à présent, il en avait senti la densité et l'éclat, la neige rose immaculée. Il comprenait que c'était bien là le visage qui correspondait au petit corps d'une seule coulée de marbre et de feu, net et lisse et sans bavure. Il le voyait dans ses détails et dans son ensemble comme un paysage, le plus beau des paysages. Il en respirait la pureté presque irréelle. Visage de jeune fille, d'enfant encore, mais où le visage de la femme qui vient, qui est là, qui parle, apparaît, charge tous les traits d'un abandon plus lourd, noie toute l'expression dans une gravité plus secrète et plus chaude. Visage de l'enfant et visage de la femme qui mûrit dans l'enfant. Non pas la femme telle qu'autrefois Hanebarde s'en était fait l'idée, et qui n'était qu'une chose sans défense, ouverte à l'étreinte du mal, mais de la femme fermée, le bourgeon gonflé de sève, la corolle repliée sur elle-même, vêtue de caresses, la cloche neuve qui n'a pas encore battu, l'enfant et la femme, le visage et le corps et l'âme, tout le miracle de Bridille, qu'il tenait sur ses genoux et qu'il pressait dans ses bras comme un hymne vivant et plein. Il ne tremblait plus, il était calme. Il voyait bien qu'il n'y aurait plus jamais autre chose sur la terre que la brûlante merveille qu'il tenait dans ses bras et que le printemps inouï qui le transperçait. Il ne pourrait plus désormais vivre que pour cela et par cela. Dans ses yeux bleus, si froids d'habitude, la flamme brilla, transfigurée. Il se détacha de Bridille, sourit encore, se détourna. Des larmes lui brûlaient la paupière. « Oh, ce n'est rien, dit-il, je ne pleure pas. Non, non, c'est pas cela, c'est la joie. Toutes ces jonquilles, tu comprends, à la fin ça finit par être trop beau. Ce n'est rien, non, je t'assure. Je vais refaire le bouquet, je le mettrai sur ma table. Ça me fait tellement plaisir. »